Presse, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous dresserons le bilan des 6 premiers mois du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Procès historique. La justice est-elle à la hauteur de vos attentes? Vous êtes sur place et je sais que ce procès est suivi jour après jour. Vous êtes très nombreux à regarder les audiences à la télévision. On a envie de vous entendre évidemment ce matin pour dresser un bilan d'étape 6 mois après. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, nous allons donner la parole aux élèves du lycée de Lessouriaux aux Ulysses, c'est en région parisienne, et ils sont avec nous ce matin dans ce studio à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, dont RFI et tout le groupe France Média Monde est partenaire. Une semaine au cours de laquelle de nombreux ateliers sont organisés en France, mais aussi dans les lycées français à l'étranger pour aider les jeunes à comprendre les médias, à développer un jugement critique sur le traitement de l'actualité, à sensibiliser à la lutte contre les fausses informations. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre studio ce matin. Je dis un bonjour aux 32 élèves de la classe de seconde 10. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Merci, vraiment merci à vous. Alors je précise qu'une partie des élèves sont ici dans ce studio à mes côtés et puis l'autre partie est en régie aux côtés des techniciens. On est ravis de vous ouvrir les portes de la rédaction, d'autant que vous avez plein de questions à nous poser pour comprendre comment la rédaction, comment RFI travaille au quotidien pour informer les auditeurs. Et on va commencer avec toi, Manon. Bonjour, Manon.
Bonjour. Nous savons que beaucoup d'informations circulent dans le monde, mais qu'une partie seulement d'entre elles sont choisies. Comment sont donc sélectionnées les informations qui sont diffusées à l'antenne et quel est le processus qui permet de vérifier l'information de la source jusqu'à sa diffusion?
Alors, qui de mieux placé que la directrice de la rédaction, adjointe à la directrice en charge de l'information Monde? Bonjour Frédéric Misselin.
Bonjour.
Alors, comment sont sélectionnées toutes les informations qui sont diffusées dans nos journaux?
Alors, pour que Manon puisse comprendre, il faut voir un petit peu comment fonctionne RFI. Donc, on définit ensemble de façon collective la ligne éditoriale de RFI. On a des conférences de rédaction, c'est-à-dire des réunions, où sont représentés chacun de nos services, donc l'international, l'Afrique, la politique, l'économie, le sport, etc. Et chacun sur son domaine nous explique qu'est-ce qui est important dans l'actualité du jour et pourquoi il faut faire le choix de mettre cette actualité en avant. Donc si on arrive un peu tard, on se dit qu'il vaut mieux attendre et la traiter avec un reportage ou bien appeler un expert pour la vérifier. Bref, on a différents modes de traitement possibles. Et puis on s'appuie aussi beaucoup sur nos correspondants à l'étranger qui nous font remonter des informations tout à fait précieuses et qui nous disent « là, il faut faire de la place à l'antenne, je vis dans ce pays, je sais ce qui se passe, je sais que ça, c'est important ». Et puis enfin, on a une équipe de rédacteurs en chef et leurs adjoints qui suivent l'actualité sur les fils de dépêche, sur les réseaux sociaux, sur les grands médias internationaux et qui nous alertent quand il se passe quelque chose. On réfléchit à ce que les gens attendent de nous sur le continent africain où on nous écoute beaucoup. On ne traite pas la même chose en France et en Afrique. Donc ça, c'est aussi un point important pour faire le choix de traiter telle ou telle information.
Et quel est le processus qui permet de vérifier une information, Frédéric Misselin?
Alors, l'idée, c'est d'être au plus près et de vérifier. Je pense à la libération d'Olivier Dubois. On l'annonce quand on le voit, quand le journaliste qui est à Niamey voit de ses yeux qu'Olivier Dubois est bien là devant lui. C'est ce qui déclenche l'information, parce qu'on ne peut pas, sur des on-dit, donner ça à l'antenne. Et puis donc il faut des témoins directs, avoir trois sources différentes qui recoupent ces informations. Mais je pense que Sophie Malibaud...
Alors Sophie Malibaud qui est également avec nous, journaliste à RFI. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous présentez tous les vendredis Les Dessous de l'Infox, qui est une émission justement qui décèle les fausses informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. On a des questions là-dessus dans un instant, donc restez bien avec nous Sophie Malibaud. Mais d'abord justement sur le processus de vérification des infos.
Alors ce qui se passe en ce moment, c'est quand même qu'il y a énormément d'images qui circulent
circulent sur les réseaux sociaux, qui sont souvent des images sorties de leur contexte, et ça devient même de plus en plus compliqué parce qu'on a aussi maintenant des images fabriquées de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a des outils pour ça, pour vérifier qu'une image est réelle et qu'elle correspond aussi à ce qu'on nous dit qu'elle est. Je parlerai tout simplement d'outils numériques comme la recherche d'images inversées, ce qui nous permet en fait de voir quelle a été la toute première occurrence de telle ou telle image sur les réseaux sociaux ou sur Internet tout simplement. Et comme ça, si jamais on nous fait passer telle scène de manifestation pour une scène actuelle qui se passe dans tel pays, grâce à la recherche d'images inversées, grâce au moteur de recherche, on peut retrouver les premières occurrences, les premières apparitions de cette photo de manif et s'apercevoir, bah non, c'est pas du tout à
elle
cette date-là.
Elle n'a pas été tournée dans tel pays, voilà, à telle heure, tel jour.
Elle a été sortie de son contexte, on lui fait dire en fait des choses qu'elle ne dit pas.
Manon, a-t-on répondu à tes questions ?
Oui, merci beaucoup.
C'est juste un exemple.
Voilà, c'est un exemple. Vous restez avec nous, Sophie Malibaud, Frédéric Misselin également. Michael, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Michael, on t'écoute.
Je pense, le format radio est un format très particulier pour moi et certains jeunes de nos jours, car on est souvent habitué à voir des images. D'où ma question, quels sont les avantages et les inconvénients du format radio ? Cela a-t-il une influence sur la manière de sélectionner l'information et sur ce que l'on veut dire.
Frédéric Misselin, les avantages et les inconvénients de la radio. Moi, je ne vois
que
des avantages.
Il n'y a que des avantages, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, effectivement, les journalistes en radio sont mobiles, légers, discrets. C'est utile quand on est sur une manifestation. S'il faut courir, ne pas se faire repérer dans un travail d'enquête. Et puis, c'est aussi le média de l'immédiat. C'est-à-dire que je repense aux attentats du Bataclan, par exemple. Des journalistes de la rédaction habitaient tout à côté. Ils se sont tout de suite mobilisés. Ils appellent la rédaction. On les met à l'antenne. Et simplement, ils racontent ce qu'ils voient, ils vont sur place, ils décrivent les faits très vite, ils donnent leur téléphone à un témoin et immédiatement on a un témoignage. Donc voilà, il y a des choses très très immédiates. L'inconvénient, ça veut dire quand même qu'il faut qu'on ait une écriture particulière parce qu'il faut donner à l'auditeur à voir ce qui se passe. Et puis... c'est aussi l'exigence d'obtenir, par exemple, de bons témoignages. Si vous avez un témoin pas très pertinent, mais des images très fortes derrière, ça captera l'attention
du téléspectateur.
Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas en radio. On a une exigence qui est particulière pour capter l'attention de l'auditeur. Voilà.
Merci Frédéric Misselin. D'autres questions ? Evan. Bonjour Evan.
Bonjour.
On t'écoute.
Dans un contexte où le travail des journalistes est parfois critiqué pour son manque d'objectivité, comment faites-vous pour assurer la légitimité de la profession face à la prolifération des informations non vérifiées sur les réseaux sociaux ?
Alors ça, c'est une question pour vous, Sophie Malibaud.
Oui. Alors, notre légitimité, elle repose sur le factuel. C'est le maître mot, c'est le factuel. La réalité des faits à un temps T, dans un lieu donné, c'est ça qu'on va s'attacher à prouver, parce que c'est ça qui est souvent, qui fait l'objet de déformations sur les réseaux, comme je venais de l'expliquer dans l'exemple précédent. Et donc, notre légitimité, c'est de pouvoir prouver ça, et dans le travail de lutte contre la désinformation, on va tout faire pour montrer comment on décortique une fausse information. Je pensais à la question aussi de ton ami précédemment, c'est qu'on a aussi le site internet sur RFI qui nous permet d'exposer visuellement ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que les fausses informations passent beaucoup sur les réseaux sociaux. TikTok est un énorme pourvoyeur de désinformation. Les gens passent là-dessus très rapidement. Nous, on s'arrête, on prend un temps d'arrêt, on vérifie. Notre légitimité, elle vient aussi du fait qu'on nous laisse le temps de vérifier. De même que nos journalistes sur le terrain, en général, ils ont le temps, enfin, ils doivent aller très vite, mais ils ont quand même des moyens pour vérifier et tout ça ne passe pas sans filtre. Comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas sans filtre. Voilà, nous, on est une entreprise de presse, on a une rédaction, on débat entre nous, et voilà, notre légitimité, elle vient de tout ce travail qui se fait en amont. Donc, une fausse information, on va scruter tel faux document, parce que maintenant, je vous parlais des images qu'on peut fabriquer, mais on peut aussi... vous mettez sur Google, vous écrivez « fausse une de journal », je l'ai fait hier pour vérifier encore, on vous présente tout de suite un petit logiciel très pratique où vous allez pouvoir vous créer une fausse une du monde. Donc vous allez avoir des gens qui vont mettre ça sur les réseaux. Il faut être capable de... Alors nous, on a l'expérience du métier aussi qui nous permet de saisir tout de suite que le contenu est faux. Mais ensuite, il va falloir qu'on puisse montrer au grand public et dire, avec les mots les plus simples possibles pour être compris, pourquoi c'est faux.
Aurélien, je crois que tu as également des questions sur les infox.
C'est ça. Bonjour. Comment faire pour répondre efficacement contre les fausses informations? Ce travail est-il fait par vos journalistes?
Oui, bien sûr.
Et Sophie Malibaud, il contribue toutes les semaines avec la chronique et un magazine de 20 minutes.
Voilà, c'est notre préoccupation, cette efficacité. Alors, elle est très difficile à évaluer. Je vais vous dire déjà une réponse en deux temps. Déjà, par la négative, déjà, on va essayer d'éviter d'exposer, de surexposer, de donner de la visibilité à ce qui est faux et qui ne circule pas beaucoup. Parce que, en fait, c'est le but de ceux qui désinforment intentionnellement, ceux qui répandent les infox en le sachant, c'est quelquefois c'est pour l'argent même, pour faire du clic.
Mais à partir du moment où une fausse information devient virale, Sophie Malibaud, on se doit d'en parler.
Exactement, donc ça c'est notre parti pris, c'est qu'à partir du moment où on voit qu'il y a un certain degré de visibilité, ça vaut le coup de s'y attacher et c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors de vérifier les sources comme le fait tout journaliste de base. Et le croisement des sources, c'est quand même un travail assez, assez fastidieux parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avez plusieurs sources, mais quelquefois, c'est un groupe de personnes qui sont du même avis. Donc, du coup, vous avez plusieurs personnes, mais ce n'est qu'une seule source. Quand on parle de croisement des sources, il faut qu'elles proviennent de lieux différents, quoi, de provenances qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, c'est tout un travail de pouvoir élaborer cette petite architecture qui, au bout du compte, nous permettra de dire ceci est absolument faux ou ceci est absolument vrai. Il y a tout un entre-deux. Il y a aussi, il ne faut pas confondre ce qui est du domaine de l'opinion, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça c'est autre chose, c'est du débat et il y en a sur l'antenne, il y en a beaucoup. Et puis, ce qu'on fait, nous, dans les dessous de l'infox, où là, vraiment, on est sur ce qui est faux, vraiment. Et s'il y a un petit peu de zone grise, on expose. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Quelquefois, il y a des choses, on sait que c'est faux, mais on ne sait pas ce qui est vrai. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses comme ça dans la crise du Covid. C'était assez compliqué. Mais c'est déjà un atout de dire, cette chose n'est pas vraie. Maintenant, quelle est la vérité sur ce phénomène? Nous ne l'avons pas encore. Le jour où on l'aura, on le donnera.
Et les dessous de l'infox, c'est tous les vendredis à 17h10, temps universel. J'en profite pour rappeler l'horaire. Allez, encore une dernière question sur les réseaux sociaux, les fausses informations. Issa, bonjour.
Bonjour.
On t'écoute, Issa.
Les réseaux sociaux sont-ils utilisés pour permettre aux journalistes de toucher un plus jeune public qui ne regarde pas forcément les informations télévisées?
Sophie Malibaud.
Bah oui, nous, en tout cas, on met en forme, on fait en sorte de mettre en forme notre chronique pour qu'elle puisse être exploitable sur les réseaux sociaux, parce que effectivement, c'est là qu'elle va rencontrer son public le plus important, puisque effectivement, beaucoup de jeunes s'informent comme ça, ils ne regardent pas le journal télévisé comme ça se faisait avant.
Issa, tu ne regardes plus le journal télé? Ça t'arrive de temps en temps. Bon, ouais. Très bien.
Non, mais on va quand même, on est présent sur les réseaux sociaux, et parce que c'est important aussi de pouvoir mettre des liens qui permettent d'approfondir ce qu'on dit quelquefois un peu rapidement dans nos formats radio. On donne les liens pour que les gens aillent voir les preuves qu'on a apportées, quoi, en fait.
Sophie Malibaud, merci infiniment d'être passée dans ce studio. On vous libère. D'autres confrères nous rejoignent et nous avons encore plein de questions de la part des élèves de seconde 10 du lycée de Lessouriaux aux Ulysses. Ils nous rendent visite ce matin dans les studios de RFI à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école dont RFI est partenaire. Emma, bonjour.
Bonjour, nous avons appris que RFI diffusait des messages à destination d'Olivier Dubois pendant sa détention. Pourquoi RFI a été choisi pour diffuser des messages et pouvait-on s'assurer que ces messages étaient bien reçus par Olivier Dubois.
Olivier Dubois, journaliste français libéré le 20 mars après 711 jours de captivité au Mali. Bonjour David Bachet.
Bonjour Juan.
Bonjour Emma, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez tout au long de ces quasiment deux années recueilli les messages des proches d'Olivier Dubois, des messages qui ont été diffusés tous les 8 du mois, c'est une date importante, hein, le 8 de chaque mois, puisque Olivier Dubois a été pris en otage un 8 avril, c'était le 8 avril 2021. Racontez-nous comment vous avez mis en place ce dispositif spécial pour recueillir les propos, les messages des proches et pour faire en sorte qu'Olivier Dubois puisse les entendre là où il était.
Alors, d'abord, on a décidé de le faire parce qu'on savait par expérience qu'il pouvait nous entendre. D'autres otages qui avaient été kidnappés avant lui avaient pu en témoigner à leur libération. RFI a cette spécificité qu'on est diffusé en Afrique de l'Ouest, on est diffusé au Mali, l'endroit où Olivier était détenu. Et donc, on savait que là où il était, on pouvait l'atteindre. Ça, c'est la raison pour laquelle on a pu faire ça, tandis que d'autres médias n'avaient pas cette possibilité. Et ensuite, ça s'est fait de manière très, très, très simple. On est en contact avec la compagne, la sœur, l'autre sœur, la maman, le papa. Et donc, avant le 8, chaque mois, on se contacte, on enregistre un message dont l'objectif est de soutenir Olivier, tout simplement, de lui donner des nouvelles. Et c'est mis à l'antenne à l'antenne chaque 8 du mois. On est très heureux de ne pas le faire le 8 prochain.
Et dans un premier temps, on ne savait pas si Olivier Dubois entendait ces messages.
On ne pouvait pas en avoir la certitude. On s'en doutait pour la raison que j'ai expliquée, c'est-à-dire que d'autres otages avant lui avaient témoigné du fait qu'ils pouvaient nous entendre. Ensuite, on a été rassurés du fait que dans une vidéo diffusée par ses ravisseurs, par ses geôliers, une vidéo qui faisait office de preuve de vie, Olivier s'exprime face caméra et il nous dit qu'il arrive à entendre les messages. Il y fait référence, il les commente, il dit que ça lui fait du bien, il répond à ses proches. Et donc, à partir de ce moment-là, on en avait la certitude.
Ouais. Autre question, Gabriel. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
On t'écoute.
Qu'est-ce qui pousse Olivier Dubois et plus généralement d'autres journalistes à travailler dans un pays où le contexte sécuritaire est dégradé?
La même raison que pour laquelle tous les journalistes font leur métier, c'est-à-dire donner de l'information. Les zones d'insécurité, les zones de guerre, de contexte dégradé, comme tu as bien dit, sont des terrains plus difficiles que les autres, parce qu'ils comportent des risques, hein, par définition. Mais il est d'autant plus important de s'y rendre pour pouvoir donner la parole aux populations, aux élus locaux, à tous les acteurs qui se trouvent dans ces zones où l'information est souvent plus difficile à donner qu'ailleurs pour les raisons évidentes d'insécurité. Donc il est important de s'y rendre. Certains journalistes en ont fait leur spécialité, ils sont des journalistes de guerre. Et ils partent sur les terrains de conflit à travers le monde parce qu'ils en ont l'habitude et que c'est leur spécialité, c'est leur domaine. Il y a d'autres journalistes qui s'y retrouvent, entre guillemets, malgré eux, parce qu'ils couvrent un pays sur le long terme, depuis longtemps, et que tout d'un coup, un conflit éclate. Et donc, ils continuent de faire leur travail et de donner l'information nécessaire aux populations pour savoir ce qui se passe chez eux.
Il nous reste moins de 2 minutes avant de terminer cette première partie. Une dernière question. Swana, bonjour.
Bonjour.
On t'écoute.
Faut-il nécessairement prendre des risques pour bien informer?
Ah, Frédéric Misselin, directrice de la rédaction.
Merci Swana pour cette question. Clairement non, hein, on peut très bien informer en dehors des terrains de conflit, mais comme le disait David, c'est aussi l'essence d'aller là où ça se passe. Alors simplement, nous à RFI, on essaye de faire prendre aux journalistes le moins de risques possible, donc c'est à chaque fois un risque mesuré, évalué. Et puis, il n'y a pas seulement que les terrains de conflit, on peut aussi faire des enquêtes, faire des portraits. Je vous donne un exemple, le Covid, à l'époque où il n'y avait pas de vaccin, on fait un reportage dans un hôpital, c'est une prise de risque. Mais informer sur ce qu'on sait du Covid à l'instant T, c'est aussi informer avec une prise de risque moindre. Donc, il n'y a absolument pas d'obligation de prendre des risques pour informer.
On a répondu à ta question, Swana? Très bien. Et on donnera la parole, juste après la dernière édition d'Afrique Matin, à Vincent Souriau, journaliste au service international de RFI, et on parle de zone de risque. Vincent Souriau s'est rendu à 2 reprises en Ukraine, dans le Donbass, dans l'est du pays. Et je sais que vous avez des questions, justement, à lui poser sur le traitement de l'actualité et surtout comment les journalistes sur le terrain travaillent dans une zone de guerre et de conflit. Donc ce sera juste après le journal. Et puis ensuite, on consacrera le dernier quart d'heure de l'émission au procès du 28 septembre 2009 en Guinée. 6 mois d'audience déjà, ce sera l'occasion évidemment tout à l'heure tous ensemble de dresser un premier bilan.